Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour et merci d'être au rendez-vous de Radio Foot International sur RFI comme chaque jour en fin d'après-midi ou en milieu d'après-midi d'ailleurs où vous vous trouviez sur la planète. Et nous parlerons aujourd'hui de la bicicleta de Tonio Griezmann. C'est comme ça peut-être qu'on pourrait dire en Espagne. Le buteur des Colchoneros a retrouvé le chemin défilé de la plus belle des manières sur la scène européenne en plus, offrant un bol d'oxygène à l'Atlético Madrid. Un répit, un petit répit en tout cas. La Juventus respire elle toujours, mais respire mal, car la deuxième place n'est pas encore acquise après le match nul face au Barça sur la pelouse de Turin. Pour le PSG et Chelsea, plus de buts contre les adversaires d'un soir, mais les Bavarois peuvent-ils ravir la première place du groupe lors de la dernière journée de cette partie de la compétition européenne? Les Parisiens qui multiplient les records ne l'entendent évidemment pas de cette oreille. En tout cas, les clubs anglais sont de retour dans la compétition européenne. Ils sont bien là, ils sont en tête de leurs poules respectives. Divorce à la Lilloise au bout de 9 mois, 13 journées de championnat et 7 défaites. Marcelo Bielsa a été suspendu momentanément de ses fonctions d'entraîneur. Une hypothèse qui devenait de plus en plus réelle à chaque mauvais pas des dogs, mais le projet LOSC Unlimited survivra-t-il au remplacement de cette figure symbolique qui est El Loco, un entraîneur certainement à la peine, mais certainement pas comme les autres? Eh bien, nous en parlerons dans Radio Foot. Habib Bey, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Alors Habib Bey, on a invité un autre Sénégalais aujourd'hui pour vous faire plaisir.
Ouais, c'est bien, on est en famille.
Babacar Fall, bonjour Babacar.
Ah, bonjour Annie, bonjour tout le monde.
Correspondant du service des sports de RFI, et vous êtes à Dakar à la radio RFM.
N'est-ce pas?
Hein, vous parlez de sport là-bas aussi. Patrick Juillard, bonjour.
Bonjour Annie et bonjour à tous.
Un autre fin connaisseur du football africain et pour foot, le site Foot Africa 365. Et puis Naïm Moniol. Bonjour Naïm.
Salut Annie, salut à tous.
Naïm, il connaît tout lui. Avec Eurosport, hein, pourquoi pas, au pluriel. Olivier Pron nous rejoindra dans quelques instants à Radio Foot. C'est parti.
Gameiro la pone, Felipe recibe Fernando, la pone Torres para Correa, puede llegar Correa, el centro es bueno, ahí va Griezmann, ¡gol! ¡Golazo!
Ça vous fait danser, hein, Patrick Juillard.
Ça me rappelle ma folle jeunesse et les soirées étudiantes, ça. Hein.
Bon, ben, en tout cas,
des pogos endiablés.
C'est le pogo sur lequel entrent en scène non pas les chanteurs, mais les joueurs de l'Atlético Madrid dans leur stade, dans leur nouveau stade d'ailleurs. Alors, à la 79e minute, eh bien, il y a eu ce coup de grisou, hein, on peut appeler ça comme ça. Un but comme un éclair à l'horizon européen des Colchoneros. Ouais. Un but magnifique, Naïm.
Extraordinaire, un très beau déboulé côté gauche de Correa qui lui remet le ballon un petit peu trop haut, ce qui fait qu'il peut pas la reprendre on va dire de manière traditionnelle,
oui,
ou de la tête. Et là, bah, c'est la différence entre les bons attaquants, les très grands attaquants. Le retourné acrobatique, magnifique. Moins beau peut-être que celui qui avait marqué avec la Real Sociedad il y a quelques années, mais enfin, un but extraordinaire, comme on en voit peu.
Et voilà, en fin de match, je sais plus si c'est 70e ou 67e d'ailleurs. 68, oui, plutôt. En tout cas, hier soir, eh bien, c'est ce même stade qui avait sifflé, surtout, ouais, Antoine Griezmann, le buteur jusque-là vedette, mais qui ne marquait pas depuis plusieurs matchs. Et il avait même pas marqué durant le derby madrilène. Et donc, les hommes de Diego Simeone, eh bien, ont relevé la tête dans la compétition européenne bien mal embarquée. Là, c'était contre la AS Roma. Et ils ont gagné 2-0. Premier but Griezmann, deuxième but, passe décisive de Griezmann et
pour
son
Gamero.
Copain Gamero. Diego Simeone pouvait enfin vanter la persévérance de son buteur.
Il a commencé la soirée par quelque chose de très important, le soutien des supporters. Les gens étaient prêts à faire partie de l'équipe et à venir sur le terrain. Griezmann, Torres, l'entraîneur, c'est une équipe qui a essayé de tout donner depuis 6 ans, avec beaucoup de persévérance pour gagner et accomplir de grandes choses. Ils ont très bien joué et cette énergie nous l'a montré. C'est pourquoi nous avons pu gagner ces 3 mètres supplémentaires sur le terrain. Alors, en ce qui concerne Griezmann, Antoine Zidane est un joueur d'un autre type et là, il a fait un grand match.
Alors peut-être, Naïm, vous qui aimez beaucoup nous parler de la tactique, c'est peut-être aussi que hier, ils étaient acculés, ces Colchoneros, et qu'ils ont joué différemment.
Alors c'est-à-dire qu'en fait, la première mi-temps, on a eu le schéma habituel, un 4-4-2, deux lignes de 4, deux attaquants. C'est vrai que la Roma était très percutante par contre en début de match. Il y a eu 2-3 occasions dans les 10 premières minutes qui auraient pu faire mouche. Et à la mi-temps, Simeone a sorti Carrasco, a fait sortir Coque pour faire rentrer Correa et Gamero. Ils sont passés avec 4 attaquants.
Oui, il y avait Torres aussi qui était
voilà,
sur le terrain.
Magie du cinéma, l'Atlético joue plus haut et meilleur, a beaucoup plus le ballon, se procure plus d'occasions et finalement marque 2 buts. C'est une vraie révolution pour l'Atlético parce que Simeone rompt rarement avec ses principes. Il aurait pu le faire notamment contre le Real en championnat parce que l'Atlético est quand même un petit peu distancé, il l'a pas fait. Il l'a fait là parce que la qualification, même avec la victoire, est loin d'être acquise et tant mieux pour eux, mais c'est peut-être trop tard déjà.
Oui, peut-être trop tard effectivement parce que il faudrait en fait un miracle pour qu'il reste dans la compétition. Hein.
Oui, ils ont plus
Patrick.
Leur destin entre leurs mains, donc c'est toujours une...
À moitié, parce que la moitié du destin, une partie du destin qu'ils n'ont pas aux mains, c'est que la Roma ne gagne pas au Karabakh, alors ce qui est déjà assez hypothétique, mais en plus, c'est qu'il faut que eux battent Chelsea à domicile.
Voilà, donc c'est ça, c'est-à-dire que même une victoire ne les qualifierait pas automatiquement. Bon, sachant que aller gagner là-bas n'est pas chose facile. Effectivement, je trouve que on a senti un peu un Simeone qui lâchait un peu les chevaux et qui, comme l'a dit Naïm, était prêt à au moins ne pas mourir avec ses idées s'il pouvait maintenir l'équipe en vie, ce qui est quand même un signe d'intelligence de la part d'un coach.
C'est pas le cas de tout le monde.
On a vu certains coachs ou sélectionneurs nationaux qui restaient fidèles à leurs bêtises et qui plombaient leur équipe ces derniers temps. Je vais pas citer de nom surtout du côté de l'autre côté des Alpes, oui. Là, en Italie. Mais en tout cas, bon, je pense que c'est effectivement sans doute déjà trop tard parce qu'à mon avis, La double condition pour se qualifier me paraît être trop difficile à satisfaire. Quoi.
Sans doute dommage pour les Colchoneros sur la scène européenne, Abim, mais par contre, peut-être que ça va leur donner un nouvel élan pour la Liga où ils sont quatrième mais à 10 points comme le Real Madrid du Barça.
Oui, je pense que le nouvel élan viendra aussi avec Diego Costa au mois de janvier parce qu'on est quand même dans une équipe qui est Griezmann dépendance. Lorsqu'il est dans de bonnes dispositions, on a une équipe de l'Atlético Madrid, peu importe le système de jeu, qui a quand même malgré tout une puissance offensive importante. On a vu que dès qu'il est moins bien, bah, l'Atlético est moins bien. Alors ça dépend pas forcément du recrutement, mais il a pris une telle emprise sur cette équipe, il est tellement celui qui cristallise la réussite offensive de cette équipe que lorsqu'il n'est pas bien, et bah, l'Atlético est en difficulté. Hier, on a un Griezmann qui est beaucoup mieux, qui est incisif, qui est décisif aussi de par son but et de par sa passe. Et forcément, l'Atlético élève son niveau de jeu, mais on l'a dit, c'est trop tard, parce que lorsqu'on voit, il faudrait un miracle. Oui. Clairement, on voit pas la Roma même perdre contre Karabakh, vu l'équipe de Karabakh. Chelsea, même s'ils sont qualifiés, ils vont jouer le coup. On connaît Antonio Conte, il va pas lâcher face à Simeone. Donc c'est mission presque impossible. Après, le football nous a montré certains miracles et certains renversements de situation incroyables, mais j'y crois pas du tout pour l'Atlético. En Liga, ils reviendront parce qu'on l'a dit, Diego Costa va revenir, Griezmann va monter en puissance, il y a la Coupe du Monde qui arrive. Il a vécu une intersaison difficile, il a eu un transfert manqué à Manchester United et ça, c'est difficile à digérer.
Mais en tout cas, un footballeur de ce niveau ne disparaît pas comme ça.
Jamais.
On va dire. D'ailleurs, on l'avait vu lui sous le maillot des Bleus. Hein. Il a montré qu'il avait toujours son football.
Non, et puis surtout Annie, on entend souvent les gens dire oui, il a atteint, il était au-dessus de son niveau, il était en sur-régime. Vous êtes jamais en sur-régime. Si vous êtes à ce régime-là, c'est que vous êtes capable de le faire. Il n'y a pas de sur-régime. En football, s'il est capable de marquer 35 buts, c'est pas un sur-régime, c'est qu'il est capable de le faire toutes les saisons, sauf qu'on l'a dit, c'était un joueur qui pensait qu'il avait acquis le fait de partir à Manchester United. On s'est rendu compte qu'on a mis plus d'argent sur Lukaku et pour lui, troisième au Ballon d'Or il y a 2 ans, l'année dernière, c'est ça ?
L'année dernière.
C'est dur à encaisser, quand vous gagnez pas le Ballon d'Or alors que vous avez presque tout fait avec votre équipe et que vous allez pas dans le club que vous vénérez par Beckham parce que c'était son idole, et ben ça fait mal à un joueur comme lui, donc elle a eu du mal à le digérer, mais aujourd'hui on voit que quand il est à son meilleur niveau, c'est une autre équipe.
Babacar, l'Atlético, c'est peut-être pas l'équipe qui intéresse le plus en Afrique, en Ligue des Champions.
Non, forcément, mais on le suit depuis 2-3 saisons, leur meilleure saison sans doute de toutes ces années.
Leur finale au pluriel.
Contre leur frère de ville. Il y a un gros paradoxe à l'Atlético Madrid, une équipe qui perd pas en Liga depuis avril. 7 matchs nuls, 9 victoires, mais un paradoxe, les supporters ne sont pas contents. Griezmann, le but d'hier...
Un peu versatile aussi, ses supporters, parce qu'ils le sifflent dimanche, ils l'applaudissent mercredi.
Ouais, c'est pour ça, ce but d'hier,
c'est
un superbe but.
Football.
Ouais. un peu ingrat, tout ça, c'est le foot, Habib va pas me démentir. C'est que, voilà, ça va lui faire du bien à Griezmann, et il va reprendre peut-être ses esprits. À la pause d'hiver, peut-être qu'il va revenir encore beaucoup plus fort, mais comme ça a été dit jusqu'ici, il faut vraiment régler cette qualification en huitième de finale très hypothétique.
Si je peux me permettre aussi, les supporters ont sifflé Griezmann pas uniquement pour son inefficacité, c'est son histoire, son discours quand il a dit je suis à 7 sur 10 à Manchester, il a dit qu'il aimerait bien jouer avec Neymar et Mbappé, voilà. Il laisse quand même des signes dans sa communication qui peuvent froisser les supporters.
Voilà. Ou maladroit ou provoquant.
Un peu des deux. Plus provocant que maladroit.
Après, il n'est pas aidé avec Fernando Torres. Et à un moment donné, il faudra vraiment dire. Très bien ce qu'a fait Fernando Torres. C'est l'idole à Madrid de l'Atlético.
El Niño.
C'est le fils du club.
Mais oui, mais bon, le fils du club, je veux bien. Mais quand il n'y a plus de rendement, quand il n'y a plus de.
Je suis d'accord. Son entente sur 10-15 minutes avec Gamero était meilleure que celle avec Carrasco sur toute la première mi-temps. Après, Gamero.
Parfois, il faut couper le cordon, quoi.
On sait que Gamero va quitter l'Atlético vraisemblablement en décembre, parce que Diego Costa, parce que Vitolo, parce que tout ça, et Griezmann va devoir trouver un autre compère.
Patrick.
Non, le cas de Fernando Torres me rappelle un peu Thomas Müller, qui était longtemps au sommet au Bayern et qui a vraiment beaucoup plus de difficultés ces derniers temps et qui suscite un attachement sentimental tel qu'on peut pas l'enlever de l'équipe, mais
je crois que Carlo Ancelotti le sait, quoi.
Alors on l'a déjà, enfin il a déjà été plus ou moins mis sur
mais il revient à son meilleur niveau avec Hankes par exemple.
Mais il s'en sort plutôt bien, Müller.
Ces dernières semaines, mais sur les 2-3 dernières années, c'est plutôt en chute libre.
Non, on pense à Totti aussi quand même, qui a resté si longtemps.
Je pense quand même que Fernando Torres c'est pas du niveau de Totti.
En tout cas la légende non plus, peut-être.
De polémique.
Alors l'Atlético n'est pas sauvé, la Juventus, elle, n'est pas encore qualifiée. Les Turinois ont buté sur la défense barcelonaise, qui a réussi d'ailleurs à n'encaisser aucun but. Et on a vu Ter Stegen dans ses grandes heures hier soir, face en plus à Buffon, c'était pas rien. Est-ce que cette équipe finaliste l'an dernier est en danger selon vous, Patrick ?
Non, en danger, je pense pas.
Vous pensez qu'elle sera là en huitième de finale ?
Oui, je pense qu'elle va pouvoir avoir un sursaut suffisant pour se qualifier. Même si c'est pas gagné vu le classement de la poule.
Mais ils sont juste talonnés derrière par le Sporting Portugal qui a gagné hier soir.
Qui peut, mais je pense quand même que l'expérience de la Juve va prévaloir. Après, sur le match d'hier soir que j'ai regardé par intermittence, puisque bon...
Oui, on zappait tous un peu.
Une fois que le score était vraiment largement acquis pour le PSG, j'ai quand même pas mal parcouru les autres matchs. J'ai trouvé que c'était pas un gros match, c'était très ennuyeux, que les défenses avaient pris le pas sur l'attaque, non pas par leur par l'intensité, mais plutôt par le manque de créativité. Donc, je suis pas très un Douglas Costa, par exemple, ça a pas été brillant. Il y a d'autres joueurs qui n'ont pas impressionné.
Kedira a été très moyen. La Juve a fait une belle première mi-temps. C'est un petit peu le problème de la Juve, c'est qu'ils sont bons par à coup. Ils font rarement 90.
C'est dommage, c'est celle que j'ai pas regardée.
Et quand on parlait il y a quelques minutes de la dépendance de l'Atlético à Griezmann, à la Juve, il y a la dépendance à Dybala. Et Dybala, il a pas marqué en Ligue des Champions. Ouais. Et les problèmes de la Juve.
C'est incroyable.
En Ligue des
Champions, il a failli hier soir, mais c'est toujours pas passé.
Quand vous avez votre buteur qui vous, alors en championnat, elle est pas très bon ces dernières semaines, mais il a fait un début de saison canon, il enchaînait les buts et la Juve s'en portait très bien. En Ligue des Champions, il marque pas et globalement, la contre-performance, même au match aller contre le Barça, la Juve a pas perdu des points là-dessus, c'est sur les autres matchs parce qu'elle a pas su être efficace contre des équipes plus faibles. C'est ça aussi, c'est pas contre le Barça la contre-performance en fait.
Oui, et la Juventus, entre la Juventus et Barça, c'est ou 3-0 ou 0-0 en fait. Babacar, sur cette équipe de la Juventus.
Et finalement, on se rend compte que tous les clubs, ils doivent se départir de la joueur dépendance. On dit tout à l'heure que Griezmann qui marche pas à Atlético est un problème à la Juve maintenant, et ça c'est nouveau pratiquement.
Oui, mais c'est pas le cas partout. Le PSG ou Manchester City arrive très bien à tourner.
Manchester
même quand
City,
une de leurs stars est absent.
C'est le bon modèle Manchester City. Si. Mais aujourd'hui quand on entend la Juve dire quand ça marche pas pour Dybala,
ils ont perdu Bonucci.
C'est un problème.
Ils ont perdu Bonucci qui était quand même leur premier relanceur, c'est lui d'où tout partait.
Et Dani Alves.
Ils ont perdu un joueur d'expérience comme Dani Alves. Et c'est vrai que, sans faire offense, on me dit que Matuidi, aujourd'hui, c'est pas une recrue phare pour la Juventus de Turin. Alors, c'est vrai qu'il a tiré son épingle du jeu.
Il est rentré en fin de partie hier, d'ailleurs.
Pour moi, aujourd'hui, c'est pas un recrutement à la hauteur de la Juventus de Turin par rapport aux ambitions qu'ils ont, par rapport à l'année dernière.
Et
c'est
vrai que cette équipe. Pogba il y a deux ans.
Ouais, et puis on a un Higuain qui est moins bien. Donc, c'est vrai que la dépendance de certains joueurs, elle est beaucoup plus marquée dans certaines équipes. C'est le cas du côté de la Juve, mais c'est un petit peu logique. C'est les leaders techniques.
Ce qui faisait aussi le succès de l'Atlético la Juve la saison précédente, c'est que même avec une ou deux individualités, quand ces individualités-là n'étaient pas au niveau, tu avais toujours le bloc équipe, le collectif qui arrivait à prendre le pas et à faire des résultats. Et ni à l'Atlético ni à la Juve, c'est le cas cette saison. Les 15 premières minutes de l'Atlético l'ont montré hier.
Mais d'ailleurs, ils sont sanctionnés en championnat. Hein,
oui, la Juve n'est pas leader.
C'est la première fois. Ils sont troisième.
Ils ne sont pas leaders, mais non seulement ils ne sont pas leaders, mais ils ne pratiquent pas le plus beau football.
Mais en plus,
ils n'ont jamais pratiqué le meilleur football d'Italie. De toute façon, connaissaient leur efficacité.
Là, ils sont quand même vraiment derrière dans le jeu. Tu es derrière Naples et l'Inter.
Ça montre la difficulté à durer dans les clubs où la tactique est basée sur la défense. Un joueur de foot préfère toujours être dans une équipe qui attaque, qui essaye de prendre du plaisir et de produire beaucoup de jeux, alors que la Juve et l'Atlético, c'est plutôt des équipes qui contrent l'adversaire et qui utilisent ses faiblesses pour gagner. Donc ça, c'est mentalement plus difficile pour un joueur. Ça peut être à la longue, Habib ne contredira certainement pas, ça peut être frustrant à la longue. Et je pense que certains joueurs qui sont là depuis longtemps dans ces clubs-là, ils ont peut-être plus la petite étincelle supplémentaire qui portait leur équipe très haut.
Mais je te rejoins sur ce cas-là. Après, il y a quand même des prédispositions pour certains joueurs. Moi, je pense qu'un Godin, par exemple, il est très heureux de défendre. Un Chiellini, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus à l'aise dans une équipe qui défend que dans une équipe qui attaque.
Mais ça, c'est les défensifs.
Ces équipes-là apportent une frustration à l'adversaire. C'est aussi là qu'ils trouvent leur salut. Parce que lorsque vous avez des équipes comme ça qui sont très très denses et qui vous usent défensivement, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à marquer, on l'a vu. Ça s'est déjà passé l'année dernière avec le Barça, lorsque la Juve a usé le Barça, c'est-à-dire que le Barça a essayé de marquer et vous marquez pas.
Il y a une forme de démobilisation. On avait l'impression, hein, d'être à l'envers.
Et mine de rien, avec le talent qu'ils ont offensif, parce qu'ils en ont, Dybala, Higuain, ils sont capables de marquer des buts. Mais c'est vrai que c'est une équipe qui est plus dans des dispositions défensives que dans des dispositions offensives.
Naïm, pour terminer, hier soir aussi, alors ils doivent aussi pas mal miser sur la défense, c'est Manchester United. Et là, pris à leur jeu, c'est Bale qui finalement inscrit un but.
Avec un Serédier monstrueux.
Voilà.
Serédier monstrueux, et puis Manchester qui aurait pu se qualifier. Mourinho a fait tourner, je comprends pas pourquoi, parce que même si c'est pas un choc de jouer contre Bale quand vous avez la possibilité de vous qualifier en huitième de finale de la Ligue des Champions, mettre autant de monde.
Ils y sont pratiquement,
ils y seront pratiquement, mais enfin,
mais ils y sont pas encore.
C'est très révélateur de ce que fait Mourinho à Manchester, de sa philosophie. Ils ont pêché un petit peu avec leur faiblesse, c'est bien fait pour eux, et ils vont devoir maintenant.
Mourinho a été condescendant sur ce match, surtout quand on regarde un peu l'historique du FC Bâle contre les clubs anglais en Ligue des Champions.
Ah, mais oui.
Il y a de nombreuses victoires.
Arsenal s'en souvient, Manchester United déjà.
Mourinho aurait pu un peu plus se méfier, quand même.
Connaissant Mourinho, on l'a tous vu. C'est du Mourinho dans le texte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Mourinho, c'est l'un sûrement des entraîneurs qui s'en moque de finir premier ou deuxième. Lui, il part dans une compétition où l'histoire de finir premier de groupe, ça l'importe peu. Et il y a surtout cette première ligue qu'il veut absolument gagner. Parce que aujourd'hui, on peut considérer qu'en Première Ligue, il y a Manchester City et United. Tous les autres sont un petit peu largués, même si c'est vrai que Manchester City a pris de l'avance, et qu'il y a un vrai duel entre ces deux hommes-là, et ils gèrent ça aussi.
Je suis d'accord, avec le temps, à force d'avoir une équipe qui joue au foot et une équipe qui refuse de jouer, tu n'auras plus que Manchester City. Et moi, je pense que United fait une erreur. Alors, même s'ils vont se qualifier parce qu'ils ont 3 points d'avance, qu'ils vont recevoir Moscou à la dernière journée, que t'as Nacho et Verne Bloom qui sont suspendus, qu'il n'y a pas de problème, qu'ils finissent premier ou deuxième, ils vont y être. Mais je trouve que c'est révélateur de ce que fait Mourinho à United, notamment contre les grosses équipes en championnat. Et un match comme ça, même si Bale joue bien, même s'il y a un bel historique, tu dois le gagner, parce que quand t'as dépensé X millions
sur... Au moins ne
pas le perdre et te qualifier là-dessus.
Finalement, Guardiola prend toujours le dessus sur Mourinho.
C'est le jeu qui prend le dessus, en fait.
On verra.
C'est juste ça.
Ceci dit, on verra quand même
en termes de palmarès. Il faut regarder aussi ce que fait Mourinho. Moi, je veux bien entendre ces choses-là sur Mourinho, mais Mourinho, aujourd'hui, il construit sa saison. Et en général, il gagne tout le temps avec les clubs où il va. Parce que Manchester United, il a quand même gagné déjà en un an.
Je suis d'accord. Mm-hmm.
À Chelsea, il l'avait gagné aussi. Mais bon, on va y revenir. On parlera de Chelsea justement en deuxième partie. Mais on va parler du Paris Saint-Germain. Même si il y a une pluie de buts et que l'adversaire était un peu faible. Nous y reviendrons juste après les informations. Restez avec nous.
Radio Foot International, Annie Gasnier.
La deuxième partie de Radio Foot International avec plein de gens dans ce studio aujourd'hui autour
et
des micros.
De place,
oui. Et vous êtes rapproché du clan sénégalais,
n'est-ce
hein,
pas
maintenant.
Il y a le chef qui est là. Le chef qui est là.
Voilà. Alors Abibey qui chauffe la place, qui chauffe le micro, et puis Babacar qui est juste à ses côtés.
Et le chef, c'est moi.
Olivier Pron qui est revenu dans le studio, là, nous dire un petit coucou.
J'aime que mes amis sénégalais m'appellent le chef. Ça me touche.
Ça te va bien surtout.
Et puis en face, eh bien les jeunes du studio, Patrick Juillard et Naïm Mognol, n'est-ce
enfin,
pas, messieurs ?
Habib est plus jeune que moi, mais bon. Merci Annie de ces mots flatteurs.
Non, on demande pas ça en rentrant dans le studio. Alors, pour continuer dans cette Ligue des Champions, eh bien, arrêtons-nous sur cette pluie de buts au Parc des Princes. Vous vous êtes ennuyés, messieurs, les trois, là, parce
ah
que Olivier, Babacar et Habib étaient hier soir au Parc des Princes.
Séparément, hein. Je précise.
Séparément. Chacun dans son coin, mais bon.
Mais vraiment, moi, Boulogne en bas, quoi.
Boulogne en bas. Bon, tout vrai. En tout cas, soirée, bien, étoilée autant dans le ciel que sur la pelouse. Le Paris Saint-Germain qui écrase une très faible équipe du Celtic quand même, mais dans un match qui avait plutôt bizarrement commencé par l'ouverture du score signé du club écossais. Un but d'ailleurs de l'ancien Parisien passé du côté du trèfle à quatre feuilles écossais. Il s'agit de Moussa Dembélé.
Impressionnant, non? On savait à quoi s'attendre, hein. Je dirais qu'ils jouent comme ils savent jouer, hein, c'est tout. Pendant deux minutes, c'était bien, mais après, là, la réalité est revenue au galop et voilà, on a perdu le match. Il y a des choses à retenir, il y a des choses à apprendre. Dans les 20 premières minutes, je pense qu'on était dans le match et on l'a laissé partir. Et quand on joue contre des joueurs de cette qualité, voilà, ça paye cash et il faut apprendre de nos erreurs et puis voilà.
Ça, ce sont les Écossais qui chantent, qu'ils aient pris 1, 2, 3, 5 buts, 7 buts, ils continuent à chanter,
ils pas
Olivier.
Ils ont nous donner des leçons, les Écossais. Ça fait 20 ans qu'on le dit. Pour ceux qui les connaissaient pas, on les avait découverts à la Coupe du Monde 98, où ils avaient été formidables. Ils le sont toujours. C'est un bonheur, ce public. Franchement, ouais. C'est un bonheur. Et pourtant, quand vous prenez 5 chez vous, 7, 12 buts en 2 matchs, ça fait mal, mais voilà. Il fallait pas qu'ils marquent. On l'a dit depuis hier. Il fallait pas ouvrir le score.
Ah, si,
au
si, ils peuvent ouvrir le score, mais à la 90e minute,
voilà.
C'est mieux.
Voilà. Il fallait pas. Et après, ils les ont tout énervés, les Parisiens. Ben,
ils ont chanté jusque sur le boulevard de Clichy dans Paris. Hein. Ils ont prolongé la nuit. Mais comme le dit Moussa Dembélé, la réalité au galop revient. Et
ils
en
ont,
plus,
en fait, on a eu l'impression que ils ont fait 10-15 très bonnes premières minutes où ils étaient d'une rigueur,
ils sont dominateurs,
d'une agressivité dans le pressing, d'une vraiment, ils étaient assez hauts. En plus, ils faisaient des bonnes sorties de balles en une touche et tout. Et puis d'un seul coup, il y a eu une rupture
de courant.
Voilà, Paris s'est réveillé et là, ils ont déroulé. Ils ont
4,
déroulé.
4 buts en 35 minutes.
Les dernières demi-heures de chaque mi-temps, c'est un monstre.
Mais, comme va dire Habib, ça n'est pas anodin.
Mais ils étaient endormis, Habib, en début de match.
Je pense que la passe de Dani Alves met un petit peu tout le monde dans l'embarras. C'est vrai qu'on est habitué à le voir prendre des risques là. Cette passe là elle est hors de position, elle va directement en corner pour le Celtic, et puis le corner c'est incroyable, ils sont tous arrêtés, il y a que Cavani qui sort, mais qui sort très tardivement, et on a l'impression que même le corner de Ncham n'est même pas puissant, c'est-à-dire que c'est un corner
joué,
frappé,
c'est très bien tiré,
ça a été préparé à l'entraînement,
parce qu'il sait que Dembélé prendra pas le ballon de la tête aux autres, quoi.
C'est quoi la sieste de Thiago Silva aussi,
non mais la sieste de tout le monde, c'est Daniel Alves qui est au départ de l'action avec
la main d'Areola,
c'est Areola, même s'il fait une petite faute de main, mais je pense qu'il la voit au dernier moment.
Il doit être plus décisif.
Il veut la sortir, Olivier.
Il est foudrage parce que lui, il avait un objectif à titre perso. Il l'avait dit la veille en conf. Il voulait être le premier gardien à rester, à avoir sa cage inviolée pendant 6 matchs. Et je pense que là, vraiment,
mais
cette ouverture de score, elle les a mis hors de eux, les Parisiens.
Puisqu'en plus, l'avantage qu'il a, c'est qu'on ne va pas penser à cette bourde parce qu'ils en ont mis 7 derrière. Ça va passer inaperçu, mais ça reste une petite faute de main. Un gardien beaucoup plus décisif l'aurait sorti, mais elle est touchée. Donc on se rend pas compte, ça arrive très très vite.
Oui.
Mais ce qu'a fait le PSG, moi je vous le dis, hein, c'est prodigieux.
Ah bah
parce
qu'il
faut juste se rendre compte, moi j'entends, et on est moi le premier à dire, l'adversaire est faible. Mais j'ai regardé par exemple Manchester City face à Feyenoord qui a marqué 0 points en poule depuis le début de la Ligue des Champions. Ils n'ont gagné qu'un but à
0. Je suis d'accord.
C'est-à-dire qu'on a l'impression que le PSG, on attend les quarts de finale et on se dit, bon, bah là, à ce moment-là, on va voir ce qu'ils font. Mais non, ce qu'ils font là déjà en poule, c'est un grand d'Europe.
Oui, je sais ce que valent les statistiques, mais il y a des statistiques, en tout cas, qui disent, c'est ce qu'on pouvait lire hier soir, que quand on a un excellentissime parcours et qu'on marque beaucoup de buts en phase de poule, ça veut pas dire qu'on va gagner la Ligue des Champions.
Oui, je suis d'accord avec vous, Annie, mais dans ces cas-là, on va pas leur dire, bon, bah, écoutez, vous jouez pas les matchs de poule.
On leur reprochait avant de pas, d'être, effectivement,
Ludogorets, c'était pas plus fort que le Celtic l'année dernière. Et pourtant, ils ont failli les battre au Parc. Donc, voilà, c'est aussi, l'adversaire est faible parce que Paris est très fort.
On est sur des stats qui dépassent l'entendement. 24 buts en 5 matchs. Ça veut dire que c'est minimum 4 ou 5-0 par match.
Hier, le Bayern ne gagne que 2 buts à 1 contre Anderlecht.
Et n'avait gagné que très difficilement à Glasgow, 2-1, encore une fois, en toute fin de match.
Je suis là, Carabag a pris des points contre l'Atlético. Enfin, t'en as plein cette année des équipes qui ont perdu des points. Alors, ce que fait le PSG, les deux dernières demi-heures de chaque mi-temps, en fait.
On est sur 24 buts marqués, un seul encaissé. On est sur 69 buts depuis le début de la saison. Mais... c'est 14 de plus que Manchester City, qui est la deuxième équipe la plus prolifique en attaque. 69 buts, c'est en 18 matchs.
Ils ont l'attaque la plus prolifique d'Europe. Mais
et 41 buts sur ces 69, je termine juste pour qu'on ait les chiffres, 41 pour Neymar, Cavani, Mbappé, 41 sur 69.
C'est pour ça qu'il a tort, et Cantona, de se poser la question pourquoi Neymar, il vient jouer en France. Une petite parenthèse.
Mais si tu peux te poser la question, après, il n'y a pas que ça.
Non, mais ça, c'est pas vraiment le sujet. On verra si le PSG arrive à déployer un tel football tout au long de la compétition. Effectivement, on peut mettre au crédit de Unai Emery qu'il a visiblement rectifié le tir à l'intersaison, puisque cette année, on voit des joueurs qui sont moins, entre guillemets, monotaches. Il y a une plus grande polyvalence, il y a une panoplie offensive beaucoup plus large, une palette qui est bien meilleure sur chaque joueur. On voit Verratti, par exemple, beaucoup plus haut, qui peut aller jusqu'au bout, qui est beaucoup plus riche, qui est beaucoup plus varié. Et ça, on peut le mettre à son crédit. Maintenant, il faudra voir sur des matchs contre des équipes également.
Par exemple, en attaque, Cavani, qui fait sur le côté, qui laisse Neymar aller à l'intérieur.
La participation offensive d'un Rabiot ou d'un Verratti, il y a beaucoup de choses.
Maintenant, il n'y a plus de question de se dire, sur un match comme hier, tout le monde cherche tout le monde. Les passes décisives viennent de tout le monde. La passe de Rabiot, la passe de Verratti. Enfin, on est sur des passes décisives qui sont aussi joli presque à voir que les buts.
T'es surtout sur une subtilité tactique au milieu de terrain. Ce milieu de terrain, depuis le début de la saison, avec l'arrivée aussi de Draxler en l'absence de Thiago Motta, est un milieu de terrain tournant. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de milieu de terrain figé. On vous dit que c'est Rabiot la sentinelle. Lorsque vous regardez, c'est interchangeable. Le match, tu vois un 4-2-3-1. Parfois, tu as Verratti et Rabiot sur la même ligne et t'as un Draxler qui était en soutien de Cavani. On a vu Cavani libérer l'espace dans l'axe, partir côté gauche, partir côté droit, une fois pour Mbappé, une fois pour Neymar. Mais pourquoi? Parce que t'as l'intelligence tactique de le faire. T'as la qualité technique pour te rassurer et te permettre de dézoner, et parce que t'es jamais en danger lorsque t'as cette possession là et que t'as cette arme de dissuasion, parce que c'est ça aujourd'hui l'arme qu'a le PSG, c'est lorsqu'il commence le match, vous avez des adversaires qui disent oh là là, si on arrête Cavani on a encore Neymar et Mbappé, si on a la chance d'arrêter Cavani et Neymar, il nous reste Mbappé. Vous vous rendez compte, il y a que le Barça qui dans les années précédentes a eu cette force de frappe pour gagner des matchs. Et c'est ce qu'ils font, en fait.
Dans l'état d'esprit, techniquement, dans la vitesse, c'est très fort, mais dans l'état d'esprit, c'est des monstres. À 6-1, il doit rester 10 minutes, ils perdent le ballon, mais ils vont à 4 le chercher. Je sais plus si c'était McGregor ou Tierney qui étaient dos au but, déséquilibrés.
Mais ils jouent dans le sens jovial du terme. Hein. C'est-à-dire qu'ils s'amusent. Il pourrait y avoir un ou deux buts de plus, mais il y en a un ou deux moments, on sent qu'ils se font plaisir. Au lieu de chercher la passe, ils essayent de passer. Il y a vraiment, en deuxième période, alors peut-être des Écossais résignés qui finissent par vraiment lâcher, mais ils se promènent. On a l'impression que c'est presque un entraînement.
C'est difficile à stopper. Hein. Quand tu regardes hier, ils mettent 5 défenseurs. Parfois, ils étaient même 6. Tu peux en mettre même 10. À partir du moment où tu as 1 mètre entre deux joueurs, de toute façon, si t'es pas au départ de l'action, ils vont trouver la solution.
Ce qu'ils ont fait sur le but de Cavani, le premier.
Le 1-2 de Neymar et Verratti, il faut voir la vitesse à laquelle ça se fait, il faut voir la précision avec laquelle ils le font, et tu peux pas stopper ça.
Moi, ça
c'est
me fait quand même penser à une chose, c'est qu'aujourd'hui, on voit de moins en moins d'équipes avec des défenseurs vraiment, qui vont clairement à la faute dès le départ. C'est-à-dire que, on sent que même les équipes faibles et qui sont bien conscientes qu'elles peuvent pas compter sur une forte défense, elles n'osent pas faire ce que faisaient des équipes dans les années 80 ou 90,
c'est-à-dire regarde les années 80-90, je vais t'expliquer, j'ai joué dans les années 2000, quand je vois le football dans lequel j'ai joué et le football d'aujourd'hui, ça va beaucoup plus vite.
On se rend pas compte,
les mecs ont des prises de décision. Tu prends un mec comme Neymar, il est impossible, tu peux te coller à lui, tu peux être à 2 mètres, anticiper sur sa première touche, il
Lamine. Hier, c'est prodigieux, son petit râteau, petit pont. Enfin, le mec te dégoûte d'être défenseur. Moi, j'adore le foot. Hein. Des fois, j'ai envie d'y retourner, mais hier, je suis très bien où je suis. Hein. Je veux pas du tout être dans
cette équipe. Et en Ligue des Champions, particulièrement, ça va quand même bien plus vite. Moi, les Parisiens, je sais pas pour Habib, mais j'étais à PSG Nantes samedi. En spectateur, c'est trois jours après, vous êtes en Ligue des Champions. L'opposition est pas forcément plus forte, mais qu'est-ce que, enfin, ça va tellement plus vite la Ligue des Champions, c'est une autre planète.
Babacar, une question sur votre pays et par exemple Dakar où il y a un groupe de supporters de l'OM, hein, puisque on sait qu'il y a des liens qui sont anciens entre finalement ces supporters
Paris, lui-même,
et l'OM. Est-ce que le PSG supplante l'OM et les autres clubs français? Ou est-ce que c'est un peu considéré comme un club à part?
Ce n'est pas demain la veille, c'est pas pour faire plaisir à Habib, même si Habib
on le suit
depuis Strasbourg, on était content qu'il débarque à l'OM. Mais non, c'est un gros système, un gros réseau supporter M à Dakar et dans plusieurs autres villes du Sénégal. Non, les gens aiment le Paris Saint-Germain. D'ailleurs, moi, sur les réseaux sociaux, il y en a un qui m'ont dit qu'est-ce que je fous au parc hier. Donc,
il n'y avait pas de match au Vélodrome, bien sûr.
On m'a posé la même question. J'ai dit je travaille.
Donc voilà, c'est énorme
le
nombre de fans de l'OM. Même si quand le Paris Saint-Germain joue en Ligue des Champions, les Sénégalais ils ont un petit penchant pour le PSG, ce qui est contraire à sur la Canebière. J'ai vu dans un café le PSG se fait remonter par le Barça l'année dernière. C'était la fête dans le bar marseillais. C'est quand même pas
vous
ça
là-bas. Vous avez vécu un moment historique. En tout cas, on parlait du Bayern Munich qui, eh bien, hier soir jouait donc à Anderlecht et n'a remporté, eh bien, que cette petite victoire, entre guillemets, mais une victoire quand même et les 3 points, mais 2-1. Ils ont mal joué hier, les Bavarois. Parole de Robert Lewandowski.
Quand on a une chance de prendre la tête du groupe, il faut toujours essayer de la saisir. Bien sûr, nous devons gagner 4-0, ce sera difficile, mais à Munich, dans notre stade, tout peut arriver. Tant qu'il y a une chance, on essaiera de donner tout ce qu'on a.
En fait, Robert Lewandowski fait allusion au match prochain, Olivier, parce que c'était dans une autre partie de l'interview, surtout son entraîneur Henkes qui disait « ils ont mal joué » et surtout la première mi-temps. Et donc, vous y serez, je vous regarde, mais vous serez
ce
à l'arène.
Je serai. Et franchement, je boude pas mon plaisir. Alors, je sais pas si
Olivier, on a une colle pour vous. Comment on dit en allemand Remontada?
Alors, je n'en ai aucune idée. Je m'appuie en général sur mon confrère de France Inter, Franck Ballanger, qui est le seul germanophone que je connais dans le métier.
On a cherché, ça se dirait. Alors, c'est simplement phonétique. Aufsteigung.
Très bien. Donc je vais aussi vite l'oublier car je ne crois pas une seule seconde à une victoire par plus de 3 buts d'écart du Bayern.
Même si le Bayern n'est pas le même. Attention.
4 buts d'écart.
Non, par plus de 3 buts d'écart.
C'est pas Reron, c'est pas Valladolid.
Oui. Ouais. Ouais. 4 ou 5. Ça peut être 4 ou 5. Ce que je veux dire, c'est une victoire par plus de 3 buts d'écart. Je n'y crois pas.
Pour être premier de la poule,
même
attention.
Si, même s'il y a eu la remontada, j'y crois pas parce que je crois pas que ça puisse se produire deux fois. Que je crois pas du tout que ce Bayern-là puisse.
Contre le PSG.
Non, mais je crois pas une seule seconde que ce Bayern-là puisse le faire, même s'il est bien meilleur que celui de septembre. Et je crois pas du tout que ce PSG-là, surtout, soit capable d'aller rendre 3 ou 4 buts au Bayern.
Le Bayern peut lui en coller 3, mais je pense que Paris marquera.
Voilà.
Ça, à la rigueur.
Qu'est défaite? Attention, je dis pas qu'il y aura pas de défaite. Ça ferait peut-être, pourquoi pas, du bien aux Parisiens d'ailleurs. Mais de là à ce qui est défaite par plus de 3 buts d'écart, c'est-à-dire perdre la première place, ça me surprendrait quand même.
Patrick, vous les avez vus jouer hier? Parce que vrai qu'ils ont gardé certains de leurs défauts de l'époque Ancelotti.
Exactement.
C'est pas non plus la baguette magique. Hein.
C'est une équipe qui est littéralement en perte de vitesse. C'est-à-dire qui jouait beaucoup sur la vitesse et qui est quand même un peu vieillissante à beaucoup de postes. Donc qui est un peu moins explosive. Qui va un peu moins vite vers l'avant qu'il y a 2 ou 3 ans. Alors c'était un match un peu particulier hier soir puisque les deux équipes, Anderlecht et le Bayern Munich, ont changé d'entraîneur à peu près au même moment. Et donc ce sont deux équipes qui sont en reconquête toutes les deux. Anderlecht qui a fait une belle remontée dans son championnat alors qu'elle était très très mal partie en tant que championne en titre. Et le Bayern, pareillement. Donc c'est vrai que le Bayern est meilleur que quand le PSG les a affrontés au match aller. Maintenant, je pense que le PSG ne va pas prendre une défaite par 3 buts d'écart là-bas. Non, j'y crois pas une seconde.
Habib, même dans leur stade, c'est peut-être pas non plus la pelouse des miracles.
Quel stade.
Non mais et puis je pense pas qu'ils vont être dans un aspect de l'absolu remontada. Je crois que pour le Bayern de Munich c'est pareil. C'est une institution. Finir deuxième c'est pas non plus le drame de ce club. Donc ils vont partir du principe qu'il est important de gagner ce match pour garder de la confiance et montrer que Heynckes a quand même changé les choses en termes de motivation parce que il a pas non plus révolutionné le jeu du Bayern et c'est une question d'honneur. Mais de se dire qu'ils vont se mettre dans la même disposition qu'a fait le Barça par exemple sur la remontada, je ne crois pas. Ce qui est important pour le Bayern c'est de gagner ce match, de montrer aussi que l'écart montré au match aller n'est pas si important parce que on se rappelle que le score est salé par rapport au match aller.
3-0.
Ouais, mais il y avait eu des opportunités pour le Bayern. Ouais,
le Bayern avait
été en difficulté.
La balle, avait possédé tout ça.
Ils avaient eu la possession, donc c'était pas forcément en accord avec la physionomie du match. Mais ce qui fait la force aussi du PSG, comme l'a dit Naïm, c'est qu'ils peuvent marquer à tout moment, même lorsqu'ils sont en difficulté.
Tout le monde. Et là, une des différences majeures entre le Bayern et le PSG, c'est que le Bayern, si Alcantara n'est pas influent, si Lewandowski n'est pas efficace, on se demande qui marque. Hier, c'est Tolisso qui a
le match. Alcantara s'est gravement blessé et il ne sera pas là en plus.
Tolisso qui sort du banc, il marque, il fait une passe décisive. Tant mieux pour lui, mais on n'attend pas ça. On attend ça de lui, mais on aimerait aussi que les titulaires le fassent. Il y a des garçons qui jouent beaucoup plus que lui, ils sont pas autant influents. Alors qu'au PSG, n'importe qui peut marquer n'importe quand.
Et puis, ce qui est arrivé au PSG l'année dernière, c'est dramatique la remontada. Mais je pense qu'aujourd'hui, psychologiquement, c'est quelque chose dont vous vous servez lorsque vous repartez sur une campagne de Ligue des Champions. C'est-à-dire que autant l'année dernière, c'était un traumatisme, autant maintenant, pour tous ces joueurs qui ont vécu ça, c'est quelque chose.
C'est une
piqûre
de rappel.
Demain, vous avez un match comme celui-ci et vous prenez un but au bout de 5 minutes, un but à la 10e minute, vous pouvez avoir soit le cauchemar qui recommence, soit la pire piqûre de rappel en disant là maintenant, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc moi, je trouve toujours que vivre ça dans l'aspect immédiat, c'est très négatif, mais dans la globalité d'une carrière et dans tout ce que vous avez à vivre, c'est quelque chose de positif parce qu'au moins vous vous remettez en question.
Donc, ce qui ne tue pas peut rendre plus fort, effectivement.
Oh là là, ça, Rémi, vous envierait votre proverbe. En tout cas, l'autre équipe qui a fait un carton dans la soirée, eh bien, c'est Chelsea, hein, les Blues de Antonio Conte, qui se sont largement imposés. Et quand on regarde chaque groupe, alors on sait il y en a 8, et qu'on regarde du groupe A au groupe H, tous les groupes qui ont un club anglais, pour l'instant, ont ce club anglais à la première place. En parlant des Manchester, en parlant de Tottenham, de Chelsea et de Liverpool. Habib, on l'a souvent dit sur la scène européenne, ils bradent un peu, c'est la première ligue et tout ça. Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont de retour? Parce que là, il y a quand même, si je me trompe pas, c'est 5 clubs hein, et les 5 sont en tête de poule.
Oui, mais pourquoi? Parce que Mourinho est arrivé l'année dernière. Il a pris un petit peu de temps à façonner cette équipe. Guardiola est arrivé l'année dernière. Il a mis un petit peu de temps à façonner cette équipe.
Et ils vont jusqu'en demi-finale.
Jürgen Klopp est arrivé il y a deux ans. Il met aussi du temps à façonner son équipe, mais malgré tout, il est en train de la former avec des Mohamed Salah qui arrive à Liverpool. Comptez. On a Pochettino, qui lui est un entraîneur qui est en train de monter
et qui a prouvé
malgré tout, avec les deux confrontations face au Real Madrid, qu'il pouvait au niveau des Madrilènes. Après, on ne sait pas si sur toute la compétition, ça pourra se confirmer. Et après, le cinquième, c'est Conte, qui arrive la première année avec Chelsea, qui est champion d'Angleterre,
qui joue pas la Ligue des Champions
la première année, donc il la joue cette année, donc on connaît avec ses principes, on sait que c'est un entraîneur qui en Ligue des Champions va réussir de par sa philosophie, parce que c'est un et on voit que même ils arrivent à marquer des buts, donc tout ça fait que ces clubs anglais se sont dotés quand même de managers qui ont l'expérience déjà en Ligue des Champions, parce que c'est pas des novices, et qui ont réussi aussi à étudier leurs équipes un an avant, et qui aujourd'hui ont un groupe abouti avec leurs idées qui se mettent en place. Et c'est aussi pour ça peut-être que le Premier League revient au meilleur niveau.
Babacar ?
Oui, l'enseignement de la patience. C'est-à-dire, la saison dernière, c'est pas trop marché pour Guardiola à Manchester City. Les dirigeants l'ont laissé faire.
Ils l'ont réinvesti.
Oui, réinvesti.
Vous préparez la transition pour le prochain sujet.
N'est-ce pas ?
Alors, les équipes sont plus fortes.
C'est bien produit.
Voilà, il faut laisser parfois le temps aux entraîneurs de faire ce qu'ils ont envie de faire.
Mais et que tout ne se fait pas par miracle, mais par le travail.
Sur Ancelotti au Bayern, j'ai pas compris. Bon, il y a les vieux barons du Bayern, les anciens joueurs à la Beckenbauer qui tirent les ficelles derrière. Enfin, on comprend pas. Je me demande si c'est utile aujourd'hui d'avoir à virer Ancelotti. Il fallait deuxième place derrière le Paris Saint-Germain. Qu'est-ce que ça fait pour un club comme ça?
Mais la vérité de novembre n'est pas celle du mois d'avril. Parce que rappelez-vous, le Real qui finit deuxième de groupe et qui gagne quand même la Ligue des Champions. Donc les équipes en forme aujourd'hui ne seront pas forcément à l'arrivée.
Il suffit, compte tenu des classements, vous pouvez peut-être récupérer le Real en huitième de finale, un PSG Real en huitième de finale, ou la Juve.
Rappelez-vous, ça sera très compliqué.
déjà en 8e de finale.
Ouais, ça a été le problème récurrent d'Arsenal. On disait Arsène Wenger n'avait pas passé le cap, mais à chaque fois il prenait le Bayern ou le Barça, donc
c'est sûr.
La problématique.
En tout cas, on a 8 qualifiés, il en reste 8 et donc rendez-vous eh bien début décembre pour avoir le tableau complet et on saura alors quels seront les 8e de finale de la Ligue des Champions. Et comme on parle d'entraîneur à qui il faut donner du temps, eh bien on va partir du côté du nord de la France.
Il avait les armes hirsutes, le regard ailleurs, l'incertain monsieur Bielsa. Pour une passe bien mise, un amorti flatteur, il se détourne parfois, se foutant bien des malentendus, il entend passer inaperçu.
Alors je sais pas s'il se fout encore des malentendus, Bielsa, et d'ailleurs c'est un accent marseillais, Habib, parce que la chanson avait été faite par un supporter marseillais du temps où Bielsa sévissait du côté de la Canebière. En tout cas, eh bien, les dogs ont perdu leur flair depuis hier soir. Alors c'est tombé pendant le match, évidemment, c'était la petite bombe virtuelle de Lille, hein, des dirigeants, qui ont lancé ce bref communiqué. Alors je vous le lis, parce qu'il est tellement court qu'il y a quand même quelques mots qui font mouche. Le LOSC a décidé de suspendre momentanément Monsieur Marcelo Bielsa de sa fonction d'entraîneur dans le cadre d'une procédure engagée par le club. Alors évidemment, il y a deux mots qui interpellent. Est-ce qu'il a été viré, Marcelo Bielsa, hier
officiellement, non. Il est suspendu en attendant entretien préalable et licenciement pour faute grave.
Donc, reste à définir la faute.
À l'heure où on se parle, il est officiellement suspendu et non limogé. Ce qui revient quasiment à la même chose, puisque de toute façon il va s'en aller.
Il va revenir? Non.
Non, ah non.
Non, non.
Donc, ce limogeage, on a beaucoup, souvent parlé de Lille, grâce d'ailleurs à la présence de Bielsa.
Mais on voyait bien que. Uniquement pour la présence de Bielsa, de toute façon.
Pardon?
Uniquement pour la présence de Bielsa.
Attention quand même à la manière dont ça va se passer, parce que Bielsa, il est arrivé avec 4 personnes dans son staff. Les salaires de l'ensemble de ces gens-là, c'est 500 000 euros par mois. On estime que licencier tout le monde, ça coûtera à Lille 15 millions d'euros. Ça n'est quand même pas rien.
Oui.
Donc attendons de voir, parce que tous les mots sont importants.
Et les termes du contrat aussi.
Les termes, enfin hein. Voilà.
Ouais,
15 millions d'euros pour un club comme Lille qui est 19e du championnat de Ligue 1.
Mais quand tu prends Bielsa, tu le budgétises. Quand tu prends Bielsa, tu sais que ça va péter entre les mains un jour ou l'autre. De toute façon, c'est inscrit dans le marbre. C'est-à-dire que tu sais qu'il fait pas 4 ans ou 5 ans dans un club. Donc tu sais qu'à un moment donné, soit lui va partir, soit tu vas te voir t'en séparer pour une raison ou pour une autre.
Mais
c'était inévitable.
En tout cas, en lisant La Voix du Nord, qui est quand même nos confrères qui sont les plus près du club physiquement, ils disent une petite chose, alors à vérifier, mais que des détectives avaient été engagés quand même par les dirigeants du club à l'affût de la moindre faute grave. Et donc,
c'est dire l'ambiance qui régnait au club.
En tout cas,
ils cherchent une faute pour justement diminuer les indices.
Patrick, est-ce que selon vous, c'est cette 7e défaite, en plus c'était Amiens, on connaît le contexte, c'est-à-dire c'était un match que Lille, par miracle peut-être, mais avait commencé par gagner. Après, il y a eu ce terrible accident, parce que finalement, qui s'est pas révélé trop grave, mais cette barrière qui cède. On rejoue le match, là, ils perdent 3-0. Est-ce que c'est cette énième défaite, 7e sur 13, qui a scellé le sort de Bielsa, ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs?
Pour moi, c'est beaucoup plus vaste que ça, les raisons de cette éviction. Alors, effectivement, ce match avait été assez piteux du côté des Lillois. Il venait après 2 victoires et un bon match, même s'il n'avait pas été gagné contre l'OM précédemment. Et là, Lille avait un petit peu rechuté. Mais plus globalement, je pense qu'il y avait un décalage entre le temps dont Marcelo Bielsa avait besoin pour mettre son ambition en musique.
Il n'aurait jamais réussi.
Et le temps que lui ont donné les dirigeants qui, rappelons-le, ont investi beaucoup, mais de l'argent qui ne leur appartient pas, qui ont besoin de rapidement monétiser,
rentabiliser
à la mode
notamment
Monaco, les nombreuses recrues. Et là, avec tous ces mauvais résultats et ces mauvaises prestations, ça risquait de faire baisser le prix, la cote de tous ces joueurs achetés assez cher. Et donc, ça mettait tout le projet en danger. Et pour moi, la temporalité de Bielsa et celle des dirigeants étaient totalement différentes et le décalage ne pouvait que amener à un licenciement comme ça.
Il avait l'épée de Campos au-dessus de la tête, point final. À partir du moment où
Campos, qui était directeur officieusement,
parce qu'il n'a pas un poste fixe,
c'est clair.
Il n'a pas de poste fixe dans l'organigramme.
À partir du moment
où ils se sont frités sur le mercato, sur la vision de l'équipe, entre guillemets, il était mort, parce qu'on sait très bien que Campos est très influent, que Bielsa, il lui faut du temps, que son effectif est très jeune, que sportivement, on ne construit pas ça en 3 semaines, 1 mois. Et pour moi, alors sur le fond, je comprends les dirigeants lillois, parce que quand vous êtes 19e, vous pouvez pas garder l'entraîneur. Sur la forme, ça ressemble quand même à un coup monté de Campos, cette histoire.
Habib, pourquoi vous dites que de toute façon, il n'aurait pas réussi?
Impossible. À mon avis, ces méthodes sont inapplicables à un effectif aussi jeune.
C'est d'ailleurs la question qu'on peut se poser autour de Bielsa qui suscite autant d'admiration. On fait des livres sur ses théories, mais on a presque la sensation, alors peut-être que l'année à Marseille avait quand même été une belle réussite,
oui,
évidemment,
il avait un
je suis d'accord.
Différent.
Mais on a l'impression que c'est presque des théories qui ne sont
oui,
pas
mais
applicables.
Il y a deux mots qui s'opposent. Il y a théorie et pratique. Mm-hmm. Non, mais à un moment donné, la théorie,
terrain,
c'est une chose.
Sûr.
Je peux vous faire un dessin sur un papier. C'est pas pour ça que je vais faire bien jouer Olivier Pron. C'est un dessin.
Non mais
je veux dire, à un moment donné, c'est aussi simple que ça. Il y a théorie et pratique. Et le problème de la théorie de Bielsa, moi, je comprends ce qu'il me dit. Je comprends où il veut en venir. Mais le problème, c'est que si tu fais ça avec Busquets, Rakitic ou Xavi ou un autre, tu as un mec qui est tactiquement déjà au-dessus de la moyenne et tu as un mec qui techniquement a compris les choses. Là, le problème, c'est qu'on demande ça à des gamins de 20 ans qui n'ont pas le talent nécessaire pour mettre ça en application. Et même lorsque vous l'avez, on l'a vu du côté de Marseille, ça dure 6 mois. Et c'est pas d'aujourd'hui, Bielsa. On regarde le pourcentage de victoires de Bielsa sur les 10 dernières années, c'est 30%. 31% aujourd'hui, vous prenez n'importe quel manager qui s'appelle Dupont-Durand, il est viré dans n'importe quel club où il va. Donc moi, je comprends ce qu'il veut dire. Je pense que réellement, c'est quelqu'un qui a des idées novatrices du
c'est
football.
C'est un dogmatique.
C'est un dogmatique, c'est un pragmatique. C'est quelqu'un qui voit le football comme football manager par un ordinateur. Donc tout est parfait, sauf que un joueur n'est pas un pion. Vous pouvez pas le déplacer comme vous le voulez, comme vous l'entendez. Il a aussi sa façon de voir les choses. Il a aussi sa façon de voir le football, son interprétation. Et malheureusement pour Bielsa, à Lille, ça pouvait pas fonctionner.
Eh bien, c'est le mot de la fin, Olivier.
Mais Olivier Pont est un bon joueur de football.
J'étais bon gardien de
Olivier,
but à l'époque.
La coordination technique, bon, il y a beaucoup de noms, 4 personnes pour le remplacer
oui, on
théoriquement.
On
ne
connaît aucun, mais
voilà.
Ce qu'il faut retenir, c'est que Luis Campos monte en grade et
il
sera
placé,
au plus près
il a placé
de cette
son pion
équipe technique.
Ouais.
Ils ont intérêt à prendre quelques joueurs d'expérience et laisser du temps, comme Monaco l'avait fait avec Jardim. Voilà.
Merci beaucoup, Babak Arfal, d'être passé dans Radio
merci
Foot
Annie,
International dans notre studio.
Monde.
Et à très bientôt. Maintenant, quand vous écouterez l'émission, vous visualiserez.
Oui, je sais de quoi
vous
ça
êtes passé
retourne.
De la théorie à la pratique, vous aussi. Merci à Guillaume Ploquin qui était à la réalisation, Pierre Guérin qui m'a aidé pour l'émission, et à demain.